du monde. Culture Vie. Valérie Lehoux.
Bienvenue dans cette deuxième partie de Culture Vive, au sommaire aujourd'hui de la chanson et de la poésie avec Paulina Zidi. Non pas que vous chantiez, Paulina, ni que vous déclamiez des vers, mais vous êtes plongée dans un épais livre, deux livres en fait, hein, Aragon et la chanson, livre plein de belles histoires et de belles chansons alors.
Exactement, si je vous dis que presque 200 de ces textes ont été adaptés en chansons par beaucoup de musiciens, ça vous surprend ?
Ça me surprend un peu, mais si vous me le dites, je vous crois et je vous adopte aussi, donc on vous retrouve tout à l'heure. Au menu également de cette émission de l'opéra, c'est pas si fréquent, de l'opéra, pas n'importe lequel, l'opéra de Pékin où vous êtes allée hier soir, Elisabeth Le Quéré, vous avez craqué, on peut dire ça.
Et voilà, j'ai craqué pour la légende Serpent Blanc, et c'est, qui va se jouer pendant 3 jours à Pleyel.
Voilà, Pékin sur scène, donc à Paris en ce moment. Merci Elisabeth, on est dans l'ambiance directement avec vous, il n'y a rien à dire. On est dans le Jinju, je crois, en tout cas en français. Cela s'appelle donc l'Opéra de Pékin, avec une troupe à la réputation mondiale, bien sûr, qui vient donc très très peu en France, hein. C'est assez rare. C'est donc événementiel à Paris ces jours-ci, vous le disiez, dans la très belle salle Pleyel, où vous vous êtes donc rendu hier soir, l'Opéra de Pékin, qui joue une histoire très populaire en Chine, la légende de Serpent Blanc.
Voilà, donc en fait, sur la scène, 50 danseurs, chanteurs, acrobates. Le décor est tout à fait minimaliste. En revanche, les costumes sont somptueux. Les femmes portent des sortes de tiares en diamanté. Elles ont des costumes richement brodés. Tout le monde est très richement maquillé, avec des yeux très blancs, comme peints... des yeux très rouges, plutôt, et des visages très blancs, comme peints... ses ruses. Et l'Opéra de Pékin, en fait, est le cœur de la culture chinoise, 8 siècles de tradition.
Donc on est vraiment dans une Chine assez traditionnelle, finalement.
Absolument. En fait, au départ, on dit que c'était des troupes saltimbanques, donc qui sillonnaient la campagne. Et puis un jour, ils se sont arrêtés à la cour de l'empereur. Et l'empereur a adoré leur spectacle. Et donc voilà, c'est comme ça qu'a commencé la grande tradition de l'Opéra de Pékin. Alors, pourquoi appelle-t-on ça opéra ? Eh bien, c'est la question que j'ai posée à Jean-Luc Larguier, qui est à la fois le directeur artistique et l'agent de la troupe à Paris.
Quand il a fallu donner un nom sur les scènes occidentales à ce genre artistique chinois, on a pris le terme opéra parce que, semble-t-il, c'est ce qui correspondait le mieux à un art qui est fait à la fois de musique, de chant, de danse, d'acrobatie et aussi de déclamation. Donc, comme ça, un mélange, si vous voulez, de différentes disciplines artistiques. Donc, comme il y a un mélange aussi dans l'opéra occidental, on a trouvé que c'était le terme le plus adéquat.
François Picard, sinologue.
Moi, je trouve que ça a beaucoup de caractéristiques du théâtre, évidemment, avec les livrets, les histoires, les personnages. Mais du point de vue du rapport avec le public, c'est vraiment ce qu'on connaît au XXe siècle, j'espère encore aujourd'hui, dans l'opéra, surtout plutôt italien et plutôt napolitain ou marseillais, c'est-à-dire le fait que dans le public, tout le monde peut accéder à ce niveau de connaisseur. C'est élitaire, mais ce niveau élitaire est réservé à personne. Tout le monde peut y accéder.
Bon, disons que c'est un peu comme l'opéra chez nous. Il y a un répertoire avec un âge d'or, hein, mais tout le répertoire n'est pas joué. Il y a quelques grandes pièces, effectivement, qui ont la faveur du public. Et La Légende de Serpent Blanc et Le Roi des Singes sont deux des pièces, disons, très connues, hein, et qui se rattachent, effectivement, à la mythologie chinoise.
Est-ce qu'on peut raconter en deux mots l'histoire de La Légende du Serpent Blanc ?
Oui, en deux mots, peut-être un peu difficile, mais bon, c'est une histoire d'amour qui finit mal ou qui finit moins bien que ce qui était prévu au départ. Hein. Ça se passe, si vous voulez, entre les cieux et la terre. C'est deux immortels, Serpent Bleu et Serpent Blanc, qui prennent une forme humaine, deux jeunes filles, et qui descendent sur terre. Et bien sûr, elles rencontrent un jeune homme. lettrés pendant une tempête où il pleut, il vente, et donc Serpent Bleu et Serpent Blanc le rencontrent, et Serpent Blanc s'abrite sous le parapluie avec le jeune lettré, et ce qui devait arriver arrive, c'est-à-dire qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre. Mais bien sûr, elle n'est pas réellement une humaine. Hein. Donc, quelques temps après leur mariage, un moine va rencontrer le mari de Serpent Blanc. Il lui dit « Ta femme est une démone, donc il faut que tu la quittes ». Et l'autre, il dit « C'est pas vrai, c'est pas possible, elle m'est fidèle, elle est amoureuse, etc. » Il dit « Bon, écoute, tu veux pas me croire, voilà, le jour de la fête du dragon, tu vas lui donner du vin. » Et comme c'est une démone, en buvant ce vin, elle va reprendre la forme du serpent. Alors, bon, il dit « Je vais essayer ». Il est quand même un petit peu troublé par cette intervention. Donc le jour de la fête du dragon, il offre du vin à sa femme, qui le refuse dans un premier temps, parce qu'elle sait bien ce qui va se passer. Et donc, après plusieurs tentatives, finalement elle accepte, parce qu'elle se dit qu'il va se douter de quelque chose, et elle se retire. Et lui, quand il rentre dans la chambre, bah, il se retrouve face à un serpent.
Zhang Yuzhu, responsable de la troupe.
L'opéra de Pékin a été créé il y a 800 ans. Et au départ, ce sont des hommes qui interprétaient indifféremment rôle masculin et rôle féminin. En fait, les premières actrices sont apparues sur scène il y a environ un siècle. Moi, je pense que les femmes sont plus aptes à jouer les rôles féminins du répertoire. Comme elles sont plus souples et plus habiles que les hommes, elles ont apporté à l'opéra quelque chose de complètement nouveau.
Est-ce qu'on peut parler de votre personnage préféré dans cet opéra ?
En fait, j'adore le personnage de Serpent Blanc, parce qu'elle descend dans le monde des mortels pour chercher l'amour véritable.
Ah ben le serpent blanc, c'est quand même un personnage formidable, hein, parce que c'est quelqu'un qui échappe à toute la réalité, puisque c'est à la fois une immortelle, et puis pour les autres c'est un démon, et puis pour celui qui est un homme et qui a les yeux de l'amour, c'est une femme, c'est la femme de sa vie, et la façon dont tout ceci se métamorphose, c'est quand même, oui, c'est formidable.
Tout le monde aime le serpent blanc, c'est le personnage favori de tout le monde.
Aime le serpent blanc, nous disait cet interlocuteur. Vous aussi, Elisabeth, évidemment.
Mais oui, mais parce qu'en Chine, en fait, c'est une véritable héroïne. D'ailleurs, le cinéaste chinois Cui Hark avait porté cette histoire à l'écran en 1993. Alors, étrangement, ça s'appelait Green Snake, c'est-à-dire serpent vert. Et c'est Maggie Cheung qui jouait le rôle de la toute jeune sœur de Serpent Blanc. Alors aujourd'hui, Maggie Cheung est une immense star en Chine. Mais à l'époque, elle était toute jeune, c'était presque une adolescente. Elle avait 19 ans. C'était l'un de ses tout premiers rôles. Et quel rôle, puisqu'en fait, il s'agit de jouer un être humain qui est aussi un animal, une femme qui régulièrement devient un serpent. Et je me souviens de cette magnifique scène qui se passe en hiver. Évidemment, que font les serpents, Valérie, en hiver ? Eh bien, ils s'endorment, ils entrent dans une profonde léthargie.
Un peu comme nous, parfois.
Un peu comme les humains, parfois. Et donc, en fait, on voyait Maggie Cheung qui très lentement portait, qui était femme à l'époque, et donc qui portait très lentement une bouchée de soja à sa bouche, et qui tout à coup, redevenant serpent, puisque c'était l'hiver, s'endormait, sombrait dans un profond sommeil. Voilà. Alors on ne voit pas ça évidemment dans le spectacle de l'Opéra de Pékin, qui est très expressionniste, tout en outrance, en flamboiement, enfin on a pu l'entendre un peu tout à l'heure, mais c'est quand même très beau.
Moi j'ai quand même presque l'impression que vous préférez le film. En tout cas, l'Opéra de Pékin sur scène à Paris, c'est donc en ce moment jusqu'à ce samedi soir, et puis ensuite la troupe partira en tournée, courte tournée, puisque c'est une fin de tournée française, dimanche et lundi au théâtre de Caen.
Je n'ai jamais écrit de chansons et n'en écrirai vraisemblablement jamais. Je dis cela souvent, on me demande ce que cela veut dire. Cela veut dire que j'écris des poèmes sans m'occuper de ce qu'ils deviendront. Là-dessus, des musiciens s'en emparent et en font, en tirent des chansons.
Rien n'est jamais acquis à l'homme ni sa force. bras son ombre et celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux.
Sa vie. Il n'a pas écrit de chansons, Aragon, que l'on entendait à l'instant, contrairement à Prévert, par exemple, ou à Desnos. Il n'a pas écrit de chansons, et pourtant, souvent, il a été chanté. C'est même le poète français, vous nous le disiez, Pauline Azidi, qui a été le plus mis en musique, comme ici avec Françoise Hardy. Hein. Et un livre vient de sortir, c'est un beau livre, ce sont deux livres même, exactement, dans un coffret. Aragon et la chanson par Nathalie Piéguet-Gros, c'est aux éditions textuelles, conclusion ou confirmation. C'est étonnant de voir toute l'abondance d'artistes qui ont chanté du Aragon.
Imaginez, Valérie, plus de 150 des poèmes écrits par Louis Aragon ont été adaptés pour être chantés, tirés de la quasi-totalité de ses recueils, de Léo Ferré à San Severino, qui a chanté L'étrangère et Après l'amour, en passant par Georges Brassens, ou encore Monique Morelli, Yves Montand et même Les Enfoirés, la troupe des Restos du Cœur. Ils sont nombreux à avoir succombé au charme du verbe de Louis Aragon. Né en 1897, il est mort il y a 25 ans, le 24 décembre 1982 exactement.
Il est presque jour pour jour.
Et oui, ce communiste convaincu, il a été fidèle au parti toute sa vie, a toujours écrit des textes considérés comme engagés, qui n'ont connu de popularité, bizarrement, que grâce à la diffusion que permettait justement la musique. Parce qu'il faut savoir que les poèmes d'Aragon ne sont pas de la littérature populaire, mais s'adressent à un lectorat habitué, à de la poésie, à un lectorat d'initiés. Et parmi ceux qui ont chanté Aragon, on retrouve Jean Ferrat, chanteur, musicien français. Il a notamment adapté le fameux poème Les yeux d'Elsa, devenu aimé à perdre la raison. Il y avait en plus entre ces deux hommes une vraie complicité qui n'était pas seulement due à leurs affinités politiques.
D'abord, je pense que c'est pas un coup de foudre politique, c'est un coup de foudre poétique. Et j'ai été tout de suite séduit par le merveilleux de son sens des images, de sa façon de sublimer la rime. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai pris connaissance, et au fur et à mesure de son œuvre aussi, puisqu'il a écrit le roman inachevé, il a écrit les poètes, etc. J'étais déjà dans le, je commençais à chanter, et j'ai mis ses poèmes après en musique régulièrement.
Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée, aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. La faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix, et de leur nuit ma nuit se fonde. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison.
Aimer à perdre la raison, Jean Ferrat, sur un texte évidemment de Louis Aragon. Je regrette un peu que les auditeurs du bout du monde n'aient pas pu entendre, vous entendre, Paulina, en train de chanter la chanson. C'était très émouvant aussi. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce qui a tellement plu aux artistes, aux chanteurs français pour qu'ils mettent ainsi en musique et qu'ils chantent à ce point Aragon, alors que c'est finalement pas vraiment une tradition française que de chanter les poètes?
Alors déjà, Louis Aragon n'a jamais interféré sur la datation en musique de ses textes. Il a toujours laissé aux artistes une totale liberté, notamment pour modifier la structure du poème, pour répéter certains vers, ou même en ajouter pour faire un refrain, par exemple. Aussi parce que ces thèmes sont universels. Louis Aragon parle beaucoup d'amour, celui qu'il portait à sa femme, l'écrivain Elsa Triolet, qu'il a épousée en 1928 et avec qui il a vécu presque toute sa vie. Il parle aussi du mensonge, lui qui a été très marqué par le secret qui entourait sa jeunesse. Il n'a appris l'identité de son père qu'à l'adolescence. Louis Aragon a aussi été marqué par la Seconde Guerre mondiale. Il a d'ailleurs pris le parti de la résistance. Il s'est donné ensuite un rôle de veilleur de mémoire, de témoin poétique de cette période de l'histoire. Et ça, bien sûr, on le retrouve dans ses textes où il condamne le nazisme. Enfin, Aragon était très proche du petit monde de Saint-Germain-des-Prés, ce milieu d'intellectuels parisiens, entouré donc de chanteurs et d'autres poètes. Il a toujours eu une sensibilité artistique que l'on retrouve dans sa musicalité, dans ses vers. Étrangement, une partie de son œuvre n'a en revanche pas ou peu été mise en musique. Ça correspond à ses débuts et à toute sa période surréaliste, même si quelques tentatives ont été faites, par exemple Le Paysan de Paris, chanté par Hélène Martin.
Alors, si vous savez tout cela, Paulina, je ne doute pas que c'est parce que vous avez une grande maîtrise de votre sujet, de votre petit Aragon, mais c'est aussi vraiment parce que vous avez eu ce livre, beau livre, hein, donc coffret, je le disais, dans un joli coffret en carton, mais c'est assez joli, aux éditions textuelles, de livre Aragon et la chanson, signée Nathalie Piéguet-Gros. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ces deux livres-là?
Alors, dans le premier livre, intitulé La romance inachevée, clin d'œil à un des ouvrages d'Aragon, Le roman inachevé, on parcourt sa vie comme une biographie qui met quand même l'accent sur ses rencontres musicales. Le tout, il d'extraits de photos, d'extraits d'articles de l'époque, de lettres d'Aragon. Enfin, plein de petits détails qui nous plongent dans la vie du poète. Le deuxième ouvrage, c'est disons plus une sélection de ses manuscrits mis en chanson, avec la photo du poème original écrit par Aragon et le texte qu'il a été ensuite adapté en chanson par les différents interprètes. Par exemple, pour Biestrup, Magie allemande, devenu Est-ce ainsi que les hommes vivent, on apprend qu'il a été chanté par Léo Ferré, Philippe Léotard ou encore Bernard Lavilliers. Voilà.
Et c'est assez émouvant d'ailleurs de voir tous ces facsimilés avec la main, l'écriture d'Aragon. On voit à quel point, très souvent, les textes étaient raturés. Hein. Il fallait beaucoup de travail avant de mener à cette magie absolue du texte et de la chanson. Alors, on va rappeler bien évidemment le titre de ce livre, Paulina. Ça s'appelle Aragon et la chanson. C'est aux éditions textuelles. C'est signé
Nathalie Piéguet-Gros.
Voilà. Et ça coûte 50 euros, mais ça vaut le coup. C'est très, très beau. Et puis, évidemment, on va se quitter en chanson avec Aragon. Vous nous dites quel extrait on va écouter?
Ben justement, est-ce ainsi que les hommes vivent?
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent comme des soleils révolus? Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver mon
fils. Changeant cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demain, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
Est-ce ainsi que les hommes vivent?
C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce était telle ou non drôle, moi, ce qui tenait mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien.
La voix de Louis Aragon, puis celle de Bernard Lavilliers. Pour refermer ce Culture Vive, merci à Benjamin Availlou, Florence Ponce, Luc Danchaud qui m'ont aidé à préparer cette émission. Rendez-vous bien évidemment lundi prochain sur cette même antenne. Pascal Paradou sera à la manœuvre. Il vous parlera notamment d'une très belle exposition consacrée aux toutes premières photographies en couleur de la si belle ville de Paris.